Bonsoir à vous. Une saison au théâtre avec ce soir l'historien universitaire et essayiste Olivier Neveu. Dans une semaine à la même heure, selon toute logique, nous connaîtrons le résultat du premier tour des élections présidentielles. Nous saurons alors les noms des deux responsables désignés par le vote des Français pour poursuivre leur marche vers l'Élysée. Dans cette campagne 2017, une fois encore, la culture n'a pas été à la fête. Elle aurait pourtant pu trouver sa place sans rougir au rang des arguments déployés. Littérature, cinéma, musique, danse, théâtre, au contact de l'art sous toutes ses formes, l'être humain apprend à se connaître et à connaître l'autre et c'est chaque fois un pas précieux vers plus de fraternité. Le théâtre, affirme certains, se mêle de politique dès lors qu'il occupe la scène. Oui, mais politique. C'est un mot vaste, c'est un mot vague qui va d'un bord à l'autre bord et qui embrasse sur sa route de multiples notions. Idéologie, militantisme, pouvoir, puissance, démocratie, engagement, citoyenneté, ordre, loi, règles, cité ou peuple. Ce que désigne la politique ne va pas de soi, écrit Olivier Neveu. Comment s'y retrouver? Comment le théâtre, depuis l'obscurité des salles où il se manifeste, peut-il nous aider à y voir clair dans ce qui, au quotidien, nous aliène et, loin de nous ouvrir les yeux, nous fait nous recroqueviller un peu plus sur nous-mêmes? Réponse avec Olivier Neveu, qui est au micro d'une saison au théâtre jusqu'à 21h.
C'est un des signes de ce monde-là qui est cette une incohérence profonde. C'est-à-dire qu'à la fois, il y a un laxisme qui est quelque chose d'incroyable et qui fait que des tas d'événements ne dérangent pas et au contraire sont magnifiés, sont célébrés par ce monde-là. Et d'un autre côté, il s'agit de couverture pour une sorte de moralisme victorien, presque victorien. Parce que d'un côté, si on met en cause tel ou tel spectacle de théâtre, ça ne vient à personne de mettre en cause l'ignominie, par exemple, des spectacles sportifs actuels. C'est scandaleux de par tous les points de vue. Il s'agit de spectacles complètement indéfendables, si on peut dire. S'il s'agit de condamner quelque chose, alors là, ce sont des spectacles obscènes, d'un bout à l'autre, et qui jouent sur les pires des tendances de la masse. Donc c'est vraiment l'obscénité.
Salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, peuple grec, salut à toi, petit indien, salut à toi, punk iranien, salut à toi, rebelle afghan, salut à toi, le dissident, salut à toi, le chilien, salut à toi, le petit malien,
salut à toi. Eh bien, salut à vous, Olivier Neveu, puisque c'est grâce à vous qu'on écoute cette chanson des Berruriers Noirs. Vous êtes professeur d'histoire et d'esthétique du théâtre à l'École normale supérieure de Lyon, auteur de Théâtre en lutte, le théâtre militant en France des années 60 à aujourd'hui, paru aux éditions La Découverte en 2007. Vous êtes auteur d'un essai sur le théâtre de Jean Genet qui vient de sortir chez Ide et Calandre. Vous êtes auteur d'un passionnant ouvrage paru en 2013 à La Découverte, dont le titre nous avait alors alerté, Politique du spectateur, les enjeux du théâtre politique aujourd'hui. Et vous avez aussi coordonné le dernier numéro de cette excellente revue Théâtre public, dont le sujet est de circonstance, puisqu'il s'attache à étudier les présences du pouvoir. Si nous avons souhaité votre présence au micro d'une saison au théâtre, ce soir particulièrement, c'est parce que l'expert que vous êtes devenu des liens noués entre théâtre et politique peut nous éclairer. Mais je voudrais pour commencer qu'on reparte d'Annie Lebrun, qu'on entendait en ouverture de cette émission, que j'avais enregistrée, interviewée en 2010. Annie Lebrun, écrivain, poète et critique, qui soulevait la contradiction entre l'obscénité supposée ou prêtée au théâtre et puis celle réelle dont on ne parle sans doute jamais, qui n'est jamais dite, qu'offrent certains spectacles de masse. Est-ce qu'on peut extrapoler, Olivier Neveu, et dire au fond que les attaques contre l'art, les attaques dont l'art est très souvent l'objet, permettent d'éviter de regarder là où se situent les vieux, les vrais lieux d'obscénité?
Oui, peut-être. Après, les attaques contre l'art qui se multiplient. On sait que l'extrême droite est à l'offensive sur un certain nombre de points. Ces attaques relativement diverses. Ce que je trouvais très très intéressant dans ce que disait Annie Lebrun, qui est une figure qui compte, qui est une figure importante aujourd'hui de la radicalité, c'est précisément de désigner le crime sensible dont nous sommes aujourd'hui les victimes, sans nous en rendre forcément compte. Il est courant aujourd'hui de désigner ou de dénoncer les avancées du néolibéralisme qui fait au monde du travail. Et Annie Lebrun a cette particularité, notamment dans un livre très important qui s'appelait « Du trop de réalité », d'avoir relevé aussi que c'était la question de l'imaginaire qui est aujourd'hui touchée, qui est aujourd'hui gangrénée, parasitée, mutilée, et tout son travail essaye de déployer cette dimension-là.
Est-ce que le théâtre, puisqu'on parle de théâtre dans cette émission, est-ce que le théâtre est, selon vous, actuellement fragilisé, et voire même en péril, Olivier Neveu?
Ah oui, je crois. Je crois qu'il y a une menace qui pèse sur le théâtre. Alors sur la question culturelle plus largement, on a vu que c'était pas du tout une question qui portait. Mais je crois pas que le théâtre est menacé tant par les petits groupes fascisants qui. Je pense que plus profondément, ce qui se joue dans la représentation théâtrale, cette importance du fictif par exemple, de la répétition, tout ça est un peu anachronique et intempestif en tout cas pour notre époque de rapidité, d'immédiateté, d'une grande vulgarité. Et oui, il y a quelque chose qui est peut-être en train d'être atteint ou abîmé dans le théâtre. Et en même temps, quand même, il faut le dire, parce que l'époque est à la déploration, pour être très souvent au théâtre, il se passe des très grandes choses. Enfin, nous sommes les contemporains, j'aurais pas dit ça il y a 10-15 ans, mais nous sommes les contemporains d'un grand moment de théâtre.
Et autre idée reçue à laquelle il faut mettre un terme, c'est que les salles sont pleines. Oui. Le théâtre ne se joue pas devant des salles vides. Mais néanmoins, prenons un instant le parti des questions qui fâchent et prenons un instant le parti des détracteurs. Que faire avec ce soupçon sans cesse réitéré d'élitisme qui colle à la peau du théâtre, Olivier Neveu?
C'est plus vrai. Enfin, on sait bien qu'aujourd'hui, les élites ne vont pas au théâtre. On a des élites tout à fait incultes et tout à fait analphabètes. Les élites, une partie de l'élite va encore à l'opéra, mais elles ne vont plus au théâtre. Donc cette chose-là n'est pas vraie. C'est sociologiquement, me semble-t-il, d'autres catégories qui sont touchées. Et puis, ce qui se passe devant une œuvre est tout à fait irréductible quand même. Alors ça ne veut pas du tout dire qu'il faille abandonner un travail de popularisation des œuvres. On sait bien que les théâtres sont des lieux effectivement intimidants, que, comme disait Bourdieu, que je vais citer une fois, n'est pas coutume, le désir de culture est aussi un désir cultivé. Il n'empêche que devant une œuvre, nous sommes tous plus ou moins égalité dans ce qu'elle peut bouleverser d'une vie. Je pense à un texte ou à une intervention très belle qu'avait fait Maggie Marin il y a quelques années à l'occasion
la grande chorégraphe Maggie Marin à l'occasion
d'un rassemblement de protestation contre la baisse du budget de la culture, sur ce que l'art peut transformer dans une vie. Et à ce titre-là, il transformera un gamin issu des milieux populaires tout aussi bien que d'autres catégories sociales. C'est une manière de vouloir le discréditer qui n'est pas effective.
Alors, je le disais, vous êtes là parce que vous avez, notamment parce que vous êtes très actif, écrit un livre qui est sorti en 2013 mais qui n'a rien perdu de son actualité, loin de là. Livre qui s'appelle « Politique du spectateur », sous-titré « Les enjeux du théâtre politique aujourd'hui ». Commençons par déblayer le terrain. Qu'est-ce que c'est le théâtre politique, Olivier Neveu? Je le disais, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a l'idéologie, ça n'est pas que ça. Il y a le militantisme, ça n'est pas que ça. Il y a l'engagement. Qu'est-ce que vous appelez, vous, théâtre politique? Comment y voir clair?
Alors je sais de moins en moins, c'est-à-dire que je croyais savoir il y a quelques années en commençant à travailler sur cette histoire-là, l'histoire du théâtre politique. Il y a des dates, il y a des jalons, Erwin Piscator dans les années 20, militant communiste, Meyerhold, enfin on a comme ça une histoire assez importante d'ailleurs de l'histoire du théâtre, où souvent on a tendance à sous-estimer les apports formels qu'ont apporté ces grands artistes, c'est-à-dire qu'ils ont inventé des formes pour résoudre des enjeux ou des problèmes politiques. Donc la chose me paraissait à peu près assurée il y a encore quelques années. Aujourd'hui Brecht, évidemment, Armand Gatti ou d'autres.
La chose qui nous a quitté le 6 avril, malheureusement.
Oui. La chose me paraît aujourd'hui beaucoup plus compliquée. Ou on peut le dire de deux façons. Soit elle est très simple. Il y a trois possibilités. Soit on dit que théâtre politique, on sait ce que c'est, et puis on va essayer de remplir des catégories. Alors on va voir des spectacles, on dit ça rentre dans les catégories. À ce titre-là, on risque d'être très vite tributaire des clés du XXe siècle, et on est au XXIe siècle. Donc ça, c'est la première chose. Soit on décide que tout théâtre est politique, ce qui est une façon de le dissoudre assez vite la question. Soit on essaye de prendre au sérieux le mot politique en considérant que c'est un mot embarrassant et de pas considérer que la question allait clarifier une fois qu'on a dit politique, mais essayer de faire résonner ce mot politique en fonction des différents spectacles auxquels on assiste.
Vous avez, dans le livre que vous avez écrit sur Jean Genet, court livre, je le disais, qui est paru aux éditions Idées Galantes, vous racontez, Olivier Neveu, l'anecdote suivante qui est assez savoureuse. Genet réagit à un débat qui vient de paraître dans le journal Observateur, débat qui réunissait Adamov, Butor, Sartre, pas n'importe qui, autour d'une question, le théâtre peut-il aborder l'actualité politique ? Et Genet écrit, c'est très drôle, « Il y a longtemps que je n'avais pas lu un tel ramassis de conneries, et celles de Sartre ne sont pas les moins épaisses. » Et il ajoute un peu plus loin, « Sauf à de rares exceptions, toutes les pièces sont d'actualité, mais écrire une pièce étant choisir un fait réel et le métamorphoser en fait imaginaire, c'est donc transposer. » Tout ça pour dire qu'au fond, le théâtre politique qui s'attaquerait à l'actualité n'a pas non plus à être un théâtre documentaire.
Il peut l'être, et on a des grandes œuvres de théâtre documentaire, mais il n'y a aucune nécessité à ça. Je pense que par ailleurs, ce qui est intéressant, alors le projet de Genet, c'est vraiment d'essayer de proposer une métamorphose par rapport à la réalité. On a d'autres approches du théâtre politique qui sont beaucoup plus frontales, beaucoup plus directes, et qui n'en sont pas moins des grandes œuvres, je pense là en parlant, mais il y en a d'autres. À ce spectacle si important à la fin des années 90, Rwanda 94, du groupe
Jacques Delcuvellerie,
qui était un spectacle qui essayait de prendre à bras le corps la question du génocide, non pas en tant que fatalité ou en tragédie, mais en tant que processus politique. Quel est le processus politique qui a conduit à l'extermination des Tutsis, avec la complicité d'ailleurs de l'armée française et de l'armée belge. Donc on peut avoir des spectacles beaucoup plus directs, ça ne dit rien, après ça se voit spectacle après spectacle. Effectivement, de toute manière, d'une certaine manière et dans une certaine mesure, tout spectacle qui est joué aujourd'hui résonne, ou pas, par rapport à l'actualité. Mais le travail de Genet est un travail, on va dire, de traduction, d'écart par rapport à la réalité, mais vous avez d'autres formes qui sont au contraire très directes, je pense au théâtre de Piscator, et qui produisent des choses aussi tout à fait passionnantes.
Est-ce qu'au fond, la politique, on peut aussi la trouver dans la forme ? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un théâtre à thèse, un théâtre à message, mais juste par la forme que prend la représentation, le message politique, enfin l'intention et l'ambition politique sont manifestes.
Oui, et alors après, je sais pas si on peut aussi facilement séparer forme et contenu. Je pense que c'est un rapport dialectique d'interaction. Moi, le livre, il est né aussi en partie de spectacles que j'allais voir, qui étaient des spectacles dans le propos absolument antifasciste, antiraciste, anticolonialiste, antisexiste, égalitaire, mais qui s'adressaient à nous comme à des crétins, c'est-à-dire qui nous abrutissaient totalement. Et cette manière de réitérer ou d'entériner un paternalisme de la scène sous couvert d'être dans des propos progressistes m'a semblé intéressant à travailler en tant que contradiction.
Alors j'aimerais qu'on fasse une halte, Olivier Neveu, par la figure d'un philosophe dont vous vous inspirez, qui vous nourrit. Il est issu du trotskisme, c'est Daniel Ben Saïd. Il est mort en 2010, mais il s'exprimait en 2005 au micro d'Emmanuel Laurentin sur France Culture.
Je suis un intellectuel au sens où je travaille avec des mots, des concepts, et plus que de mes mains, d'ailleurs étant très maladroit de ce point de vue-là. Mais je me définis pas, si on me demande de me définir comme intellectuel, je me définis comme un militant d'abord, et puis bon, qui essaie de réfléchir avec les outils, avec les moyens auxquels j'ai eu accès sur le plan universitaire, etc. Alors quand je parle de mutation aujourd'hui de l'intellectuel, bon, on a eu le mouvement des chercheurs, c'est un mouvement massif. Ce sont tous, sous des formes à des degrés divers, des intellectuels, si on prend la catégorie au sens le plus général du terme. Alors Gramsci disait, il existe peut-être des intellectuels, mais le non-intellectuel n'existe pas, tout le monde pense. Mmh. Bon, oui, c'est une affaire de degrés. Alors la division du travail cristallise ces degrés, ça c'est incontestable, mais les cristallise selon un curseur mouvant, et aujourd'hui, la part de travail intellectuel, y compris dans les travaux d'Immanuel, est allée croissante. La part de connaissances accumulées, donc socialisées, etc., est allée croissante. Du coup, je pense que la définition de l'intellectuel, qui à l'époque où il y avait, je sais pas combien de pourcents de la population qui accédait à l'enseignement supérieur, ça permettait d'identifier une couche assez précise par les diplômes. Bon, aujourd'hui, les contours sont beaucoup plus flous. Et du coup, on revient derrière à ce qui sous-tend souvent ces typologies, c'est qu'en fait, on retombe sur une vieille contradiction entre vérité et opinion, entre maîtrise intellectuelle et démocratie.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
Sur mon cours, sans armure et sans haine, mon cours. Que ma main plus légère et grave qu'une veuve effleure sous mon col sans que ton cœur s'émeuve. Laisse tes dents poser leur sourire de loup. Où vient mon beau soleil, où vient ma nuit d'Espagne. Arrive dans mes yeux qui seront morts demain. Arrive, ouvre ma porte, apporte-moi ta main. Mène-moi loin d'ici, battre notre campagne. Le ciel peut s'éveiller, les étoiles fleurir, ni les fleurs soupirer et déprer l'herbe noire. Accueillir la rosée où le matin va boire. Le clocher peut sonner, moi seul je vais mourir.
Vous avez très bon goût, Olivier Neveu, parce que cette chanson de Dao sur le poème de Jean Genet est absolument magnifique. Alors, les intellectuels, c'est pas inintéressant d'entendre la parole de Daniel Ben Saïd à ce sujet, à un moment où être intellectuel, c'est se faire traiter d'intellectuel, c'est quasiment se faire insulter, ce qui est quand même assez curieux. Est-ce que le théâtre fabrique des intellectuels ou est-ce qu'il fabrique des savons ?
Je ne sais pas si le théâtre fabrique quelque chose. Je pense que les choses sont le produit, la production ou les effets du théâtre sont beaucoup plus infimes, aléatoires, hasardeux. Je suis pas sûr qu'on puisse créer comme ça des liens d'évidence dans ce que produit le théâtre. Après, longtemps, le théâtre a rêvé de produire des militants. Je crois qu'il n'y croit plus complètement, ou en tout cas de manière différente. Ce qui est intéressant dans la parole de Ben Saïd, qui manque ô combien aujourd'hui, c'est que c'est quelqu'un qui a pris au sérieux la politique, qui a dit mais la politique c'est pas le social, la politique c'est pas l'économie, la politique c'est pas la morale. C'est pas dire qu'il y a des murailles de Chine, mais que la politique elle a une consistance propre. Et je trouve que c'est intéressant d'essayer de penser la consistance propre de la politique quand on parle du théâtre politique.
Et les émotions au théâtre, Olivier Neveu. Est-ce que, comme dit Bernard Sobel, c'est un piège qu'il faut fuir absolument pour préférer la raison ? Ou est-ce que l'émotion, elle peut avoir une vertu, si pas pédagogique, en tout cas un peu didactique ?
Ça dépend quelles émotions et ça dépend à quel moment. Vous avez des émotions qui sont absolument homogènes à la domination, qui sont les mêmes. Aujourd'hui, on voit bien qu'on fonctionne beaucoup à la peur, à la crainte. Et produire le même type d'émotion, nous forcer à des intensités maximales, sont des émotions absolument redondantes avec ce que l'on vit déjà. Et puis, il y a d'autres types d'émotions. Et le théâtre peut précisément, ou l'art, être ce qui nous amène à découvrir. Vous savez, c'est comme quand au théâtre, on s'entend rire et on ne reconnaît pas son rire. C'est une chose très étonnante de découvrir en soi des émotions qu'on ne connaissait pas. Et bien précisément, le théâtre peut aussi servir à ça. Après, je ne crois pas qu'on puisse, et je pense que Sobel est plus dialecticien que ça, je ne pense pas qu'on puisse opposer complètement...
Je le caricature.
Ouais, émotion et raison. Ce qui est intéressant par rapport... On voit bien que Bernard Sobel s'inscrit dans une tradition brechtienne. Ce qui est intéressant quand Brecht travaille sur... On pourrait en parler aujourd'hui, sur la théâtralité du fascisme, il s'aperçoit que le fascisme fonctionne à un certain type d'émotion, la sidération, la tétanie. Il analyse comment marchent les meetings et il dit mais pour faire un art antifasciste, nous ne pouvons pas nous appuyer sur le même registre émotionnel et le même registre sensible. Donc on va faire appel à autre chose chez le spectateur.
Mais à un moment donné, dans le livre Politique du spectateur, Olivier Neveu, vous parlez d'un théâtre énergétique et vous écrivez des émotions maximales dont la maximalité tient le d'objectif, ce théâtre fonctionne sur une autoritaire, sinon agressive, conquête affective, et le spectateur est à ce titre sommé de s'y conformer. À qui vous pensez quand vous écrivez ça ?
À certains spectacles de Yann Fabre, de certains de Castellucci, d'autres de McCain, même s'ils sont des esthétiques très différentes.
Et plus avant, est-ce qu'il faut remonter à Artaud, plus avant ?
Oui, d'ailleurs, il s'en réclame. Castellucci se réclame d'Artaud. Et d'ailleurs, une des hypothèses de ce livre, enfin, ou l'un des point qui m'a semblé un peu suspect, c'est pour ça que j'ai commencé à travailler, c'est de voir des artistes comme Castellucci, qui sont des grands artistes, la question n'est pas là, se réclamer d'Artaud en disant il faut produire en gros les mêmes émotions, réveiller le spectateur de sa léthargie, de sa passivité, sauf que me semble, ou se réclamant des situationnistes dans les années 60, comme si nous vivions exactement dans la même époque. C'est-à-dire quand Yann Fabre n'arrête pas de dire l'enjeu du théâtre c'est de révéler, à une époque il le dit plus tout à fait, mais l'enjeu du théâtre c'est de révéler la précarité qui constitue notre vie, je veux bien imaginer que dans les années 60 c'était une chose ignorée, aujourd'hui c'est quasiment la glue de BFM quotidienne, c'est de nous expliquer que la vie est précaire, notre travail est précaire, nos vies seront précaires. Et donc c'est d'essayer de penser la politique en conjoncture, c'est-à-dire intervenir. La politique, elle n'est pas désolidarisable de l'histoire dans laquelle elle se déploie. Et de fait, les enjeux ne peuvent pas être les mêmes dans les années 60 et aujourd'hui. On est à un nouveau moment historique d'offensive du néolibéralisme, de menace de l'extrême droite, etc.
Alors ce néolibéralisme, il fait quoi au théâtre ? Et quand je dis il fait quoi, il fait quel mal au théâtre, Olivier Neveu ? Parce que ça aussi, vous en parlez longuement et c'est assez passionnant dans Politique du spectateur.
Alors les choses, elles sont plus compliquées parce qu'il fait beaucoup de choses, et je vais essayer de le dire rapidement, mais il produit aussi des résistances, donc il est aussi producteur. Et une chose n'est jamais univoque ou homogène, je ne crois pas que ce soit tout soit foutu et game over, nous n'avons plus qu'à succomber à... Bon, le néolibéralisme, ce n'est pas un cache-sec pour ne pas parler du capitalisme, c'est une nouvelle séquence du capitalisme qui naît dans les années 70, qui arrive en France un peu plus tardivement, qui est une mise en concurrence de chacun avec tous à chaque instant. Je renvoie aux travaux passionnants de Pierre Dardot ou Christian Laval, qui fonctionnent sur un modèle, c'est le modèle entrepreneurial. Tout doit fonctionner comme une entreprise. Les théâtres doivent fonctionner comme des entreprises, et on voit bien aussi, quand on circule un peu dans le théâtre public, le malaise au travail, les burn-out, les fatigues, bon, mais mettons ça de côté, mais les théâtres se pensent aussi en concurrence les uns avec les autres, donc on pourrait le dire d'un point de vue institutionnel, mais ce qui est très fort dans le néolibéralisme, c'est qu'il a fait de chacun, nous aussi, une petite entreprise, on gère ses risques, on gère sa vie, on gère sa carrière. Et cette manière de nous isoler, de nous ne permettre d'ailleurs aucune solitude, mais de nous isoler et de faire de nous des petits chefs d'entreprise, me semble-t-il, se retrouve aussi dans un certain nombre d'esthétiques où il s'agit moins de produire des formes, des durées, des rites. Je pense qu'une œuvre d'art, c'est quelque chose qui produit du temps, des durées, que de nous manager et de nous forcer, y compris sous des allures progressistes, à adopter un certain rythme qui est le rythme dominant.
On entend bien, Olivier Neveu, que vous refusez absolument la position victimaire, que vous vous gardez bien de toute, justement, déploration. Donc, il y a un espoir, qu'il y a même plusieurs lueurs d'espoir. Est-ce que la lueur d'espoir ne consiste pas dans cette évidence qui est, enfin, ce qui devrait être une évidence, ou en tout cas une quête, disons, que si le théâtre ne fabrique pas d'intellectuel, en tout cas, il peut fabriquer le spectateur, il peut fabriquer un spectateur. Et quand je dis il fabrique un spectateur, ça veut dire il peut fabriquer une conscience.
Oui, alors après, la question de la conscience, c'est une question compliquée parce que c'est...
C'est pas la bonne conscience.
Voilà, c'est une question récurrente, la prise de conscience, et on a un peu peut-être fétichisé cela. Oui, il y a de l'espoir, et en même temps, c'est encore plus que ça, c'est-à-dire qu'il y a des alternatives en cours, c'est-à-dire que le présent n'est pas univoquement défait, et on voit des spectacles, on assiste à des spectacles qui... alors, pour relier à un autre philosophe, on a eu la voix importante de Ben Saïd, celle d'Annie Lebrun, qui est le philosophe Jacques Rancière. Rancière fait une proposition, une hypothèse extravagante, mais aujourd'hui, à force de faire que des hypothèses raisonnables, on voit bien dans quel foutoir on est, dans quel merdier. Donc, il fait une hypothèse extravagante. L'hypothèse extravagante, c'est que l'égalité, c'est pas un but à atteindre. L'égalité, elle est déjà là. Mmh. Égalité des capacités et des intelligences. Et me semble-t-il, il y a aujourd'hui un nombre important de spectacles qui organisent l'œuvre dans le déjà là de l'égalité des intelligences, qui ne sont pas là pour m'émanciper, parce que vouloir émanciper quelqu'un, c'est toujours le maintenir sous sa tutelle. C'est toujours en faire un obligé. Donc ils ne sont pas là pour m'émanciper, qui d'une certaine manière même se désintéressent des effets qu'ils produisent parce qu'on ne sait jamais complètement ce qu'on est en train de produire sur quelqu'un, mais qui travaillent pour eux à essayer eux de s'émanciper, c'est-à-dire, dans le vocabulaire de Rancière, à se désidentifier de la place à laquelle ils sont. Se désidentifier, c'est de ne pas tenir son identité, ne pas tenir en place, se déplacer. Et il y a, me semble-t-il, beaucoup de spectacles, beaucoup d'œuvres, beaucoup de trajectoires ou de projets aujourd'hui en cours qui témoignent de ces moments de liberté qui font que on assiste en tant que spectateur, on fait l'expérience de temps où on nous fout la paix, ce qui est quand même très très rare dans cette société, qu'on nous foute la paix, où on nous laisse être, pour parler toujours comme Rancière, le propre poète du poème qu'on est en train de voir, arriver à se glisser dans les interstices de ce qu'on a, on comprend ce qu'on a envie de comprendre, on voyage comme on a envie de voyager, et ce temps de liberté, c'est, comment dire, c'est comme une anticipation d'une société différente.
D'ailleurs, sur l'anticipation, vous avez encore là une référence qui est assez incroyable. Vous citez Joseph Jacotot, qui était un pédagogue français du 18e et 19e siècle, et qui dit que les deux grands péchés contre l'émancipation, ce sont deux phrases. La première consiste à dire « je ne peux pas », la seconde consiste à dire « je sais ».
Oui, voilà. C'est comme ça que Rancière clôt un colloque à Cerisy.
C'est extraordinaire. Alors, il y a un mot qu'on n'a pas prononcé, et pourtant il est fondamental dans la thèse que vous développez, Olivier Neveu, c'est le mot de capacité. Et je le trouve très intéressant, parce que si on associe ça à tout votre raisonnement, au fond, on a le sentiment qu'il y a une troisième voie à emprunter, qu'on n'est pas obligé d'être dans une dichotomie, d'un côté un théâtre qui réveillerait les consciences, de l'autre un théâtre qui ferait rupture, mais on peut imaginer un théâtre de troisième voie, une voie intermédiaire qui serait ce théâtre de la capacité. Qu'est-ce que vous mettez derrière ce mot de capacité,
alors,
Olivier Neveu ?
J'essaye de ne jamais être prescriptif, c'est-à-dire je travaille à partir de ce que je vois. C'est-à-dire de ne pas dire aux artistes...
Oui, mais c'est enthousiasmant, on a envie de vous suivre, nous. Donc...
Non, mais de ne pas dire aux artistes qu'ils doivent faire. Mais effectivement, je trouve qu'on assiste à un ensemble d'œuvres qui, précisément, ne nous mettent pas à l'endroit de la victime, tout au plus parfois de l'opprimé. Et c'est pas pareil, parce que être une victime, ça n'a pas de cause. Être un opprimé, ça permet aussi de penser le système. Mais qui s'adresse à nous aussi à l'endroit de l'égale capacité à modifier la logique des causes et des effets dans lesquels nous sommes embourbés. Et c'est les travaux, me semble-t-il, aujourd'hui, de Bruno Messa, de Benoît Lambert. Enfin, c'est pas pour donner des bons points, mais je trouve
que... Non, mais ça éclaire, c'est bien.
Il y a des œuvres, le travail de Lazare, encore récemment, Sombre Rivière, du Duzieux Théâtre. On a des expériences comme ça qui, en fait, ne font pas, encore une fois, de l'égalité un but à atteindre, mais tant de l'expérience expérimenter, là, tout de suite, en nous permettant à chacun d'être en capacité de... Le travail de Rancière est intéressant parce que, précisément, il nous permet d'arrêter de considérer qu'un spectateur est un être passif. Un spectateur est quelqu'un qui est en activité. C'est pas quelqu'un qu'il faut réveiller de sa léthargie, qu'il faut mobiliser. C'est quelqu'un qui n'arrête pas aussi de rêver en voyant ce qu'il fait et qui construit son propre spectacle. Et faire appel à la capacité poétique du spectateur et à la capacité politique du spectateur, c'est-à-dire pas lui mâcher le travail, ne pas considérer qu'il faut, en gros, mettre ses idées dans la tête d'un autre, me semble-t-il, c'est un point ou un levier ou un point de départ pour autre chose.
Est-ce que, ça sera ma dernière question, Olivier Neveu, est-ce qu'il faut au fond changer de paradigme, changer de langage, changer de discours, changer d'axe et partant de là, changer le théâtre et inventer ce théâtre politique qui serait à venir?
Oui, de toute façon, je pense que si on l'invente pas, il aura pas lieu. Donc après, on part jamais complètement de zéro. On est tributaire d'une histoire, le XXe siècle, une histoire à la fois tragique et aussi assez enthousiasmante quand on regarde ce qui a été essayé. Et encore une fois, aujourd'hui, on assiste à une série de tentatives avec des hypothèses qui s'avéreront peut-être obsolètes, qui s'avéreront peut-être ne pas fonctionner, mais ça travaille. Et ce que sera le théâtre politique du XXIe siècle, ce sont à ceux qui le créent de le dessiner.
Je voudrais qu'on se quitte avec une dernière phrase. Elle n'est pas dans votre livre, elle est dans un livre d'Annie Lebrun. « Si rien n'avait une forme, ce serait celle-là. Si rien avait une forme. » La nuance est importante. Et je voudrais la lire avant qu'on se sépare, Olivier Neveu. Annie Lebrun écrit « Le moment ne serait-il pas venu que chacun se réapproprie ce temps de l'infini qui nous habite, ce temps de l'éperdu qui redonne à la passion sa bouleversante perspective, de cœur qui bat contre le néant. »
Les femmes auront des noms de fleurs, les enfants de toutes les couleurs connaîtront le goût du pain, du vrai pain qui n'est à personne.
Un grand merci à vous, Olivier Neveu, d'être passé nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle le titre de ce livre dont nous avons parlé, Politique du spectateur, les enjeux du théâtre politique aujourd'hui. Il est paru à la Découverte en 2013. Je rappelle aussi que vous avez sorti récemment un livre sur Jean Genet, Le théâtre de Jean Genet, aux éditions Id et Calande, et qu'on pourra bientôt trouver en librairie, la revue Théâtre Public.
Nous retrouverons le langage perdu un jour au fond des âges.
Vous pouvez podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre sur le site de France Culture. Nous vous donnons par ailleurs rendez-vous dans 15 jours à 20h30, la soirée du dimanche 22 avril étant en partie consacrée sur France Culture au premier tour des élections présidentielles.
Quand ils ne seront plus là, oh.
on les aura démolis.
Marie Dalquier, Pierrick Monsigny, Christine Robert, Joël Gaillot vous saluent et vous souhaitent une excellente soirée à l'écoute des fictions présentées par Blandine Masson.
Les derniers marchands disparus, l'eau et l'air nous seront rendus. Tu seras ce que tu es, et non plus le prix qu'on te paie. L'homme sera frère des hommes quand ils ne seront plus là, quand les aura démolis. Qui boufferont les pissenlits par la racine, par la racine, par la racine. Quelquefois, je fais un rêve, tu fais peut-être le même. Tu sais bien que ce n'est pas pour demain, mais tu ne peux vivre sans croire qu'ils ne seront plus là, qu'on les aura démolis, qui boufferont les pissenlits par la racine, par la racine, par la racine. Ah, ils ne seront plus là. On les aura démolis, ils boufferont les pissenlits par la racine, par la racine, par la racine. Ah, ça ira, ah, ça ira, ah, ça ira, ah, ça ira. Ah! Fire! Ah!